Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors on va petit à petit commencer avec la conférence. Donc tout d'abord bienvenue. Donc je vais tout d'abord commencer par faire une courte présentation de du Rojava Comité Genève, qui est le groupe qui organise cette conférence. Juste avant ça, il y a juste une petite info. Donc aujourd'hui sur les affiches, c'était écrit que c'était Agit Polat qui faisait la conférence. Le discours, et donc Agit Polat ne peut pas venir en raison des grèves qui est en France actuellement, et donc c'est Mustapha aujourd'hui qui a bien voulu venir de Lyon. Donc le Rojava Comité, c'est un comité de personnes intéressées par la question kurde et la lutte révolutionnaire au Rojava. On a créé ce comité après le début de la guerre pour organiser une solidarité internationaliste avec le Rojava, donc c'est assez récent. Donc nous vous avons invité aujourd'hui parce que nous ne supportons pas l'ignorance et le rejet d'un projet politique progressiste et émancipateur qui est maintenant porté dans le nord-est syrien et dorénavant menacé par cette invasion turque. La Turquie et les États-nations craignent en effet ce projet autonome qui cherche à se défaire des carcans de la société actuelle, des frontières, des divisions ethniques et religieuses, des institutions centralisatrices, du fonctionnement capitaliste, de l'économie. Toutes ces caractéristiques sont des piliers de l'autoritarisme d'Erdogan. C'est pour ces raisons que des centaines de camarades internationalistes ont rejoint cette lutte là-bas comme ici. Les retours des expériences menées depuis maintenant 8 ans, rôle central des femmes, décentralisation et démocratisation, socialisation, considération écologique, portent en nous les germes de l'espoir, de la capacité des peuples à faire face aux oppressions et à trouver un fonctionnement politique, économique et social émancipateur. C'est donc pour tenter à notre échelle de contrer cette dynamique d'ignorance que nous avons voulu organiser cette conférence et vous expliquer le modèle politique, à savoir le confédéralisme démocratique, qui est maintenant expérimenté au Rojava, discuté dans toutes les parties kurdes du Moyen-Orient et mis en péril par l'invasion turque. En espérant que celui-ci puisse ainsi faire son chemin dans les esprits et les idées de notre époque, perdurer et se développer malgré tout, montrer la voie d'un autre monde possible. Voilà, donc si jamais on a une page Facebook, un canal Telegram aussi, et puis une chaîne Instagram, et pour nous contacter, n'hésitez pas à nous demander personnellement pour une adresse email ou autre. Voilà, et bonne conférence à tous. Et si jamais, donc après, il y a une petite table de presse à disposition, il y a des boissons et de la nourriture aussi, prix libre. Et petite info, oui, ce vendredi et samedi 13 et 14 décembre, il y a des projections les journées des films kurdes du Kurdistan au Spoutnik à partir de 18h les deux soirs. Voilà, bonne soirée.
Bonsoir, merci d'être venu. Donc je remplace Agit Polat, qui n'a pas pu venir, comme il avait dit notre camarade, à cause des grèves. Donc je vais essayer de vous éclaircir sur la situation de Rojava. Donc le thème de ce soir, je pense, c'est le confédéralisme démocratique. Qu'est-ce que c'est le confédéralisme démocratique et comment ça se met en œuvre, avec quels moyens et comment la population est formée pour comprendre et instaurer un système qui est elle n'existe pas. Alors, comme vous le savez, le confédéralisme démocratique, donc, c'est une théorie que, depuis plusieurs années, les Kurdes en discutent, essayent d'améliorer, donc théoriser, et maintenant en pratique de mettre en place un régime démocratique à Rojava. Donc, le confédéralisme démocratique, c'est un paradigme nouveau contre tout le système État-nation, État-religion, État-monarchique. Et comment ce système s'enracine à Rojava. Et donc, vous savez, les situations de Rojava, donc il y a la guerre de libération, il y a l'émancipation de la femme, et en même temps, de mettre en œuvre, d'installer un nouveau système démocratique. Alors, le système de Rojava, donc, il y a un contrat social qui est signé avec toutes les composantes de la société, tous les groupes ethniques, tous les groupes religieux, avec la guerre de la région, vu la situation de la région. Donc ce modèle, nous pensons que c'est le seul modèle qui peut mettre fin à la guerre, parce que le confédéral démocratique, donc c'est contre l'État-nation, c'est le contraire de l'État religieux comme Iran, comme les monarchies de Golfe. Et donc, de ce fait, c'est le seul issue progressiste que les sociétés de Moyen-Orient, ou même plus large, on peut voir, de trouver la paix et de vivre en harmonie dans la région. Vous savez que ce modèle dérange les États qui l'occupent, le Kurdistan, que ce soit la Turquie, l'Iran, la Syrie. Et donc maintenant, la Turquie a envahi en partie de Rojava, donc deux cantons, et essaie de mettre, éliminer donc ce système confédéral démocratique. Donc le but de la Turquie, c'est étouffer donc l'œuf avant qu'il éclose. Donc voilà ce confédéralisme démocratique pour mettre en place. Donc les Kurdes en Syrie, à Rojava, ils ont créé des académies, donc des académies sociales, académies politiques, parce que pour mettre un système que ce soit accepté par le peuple, il faut que le peuple soit formé et qu'il participe. Donc confédéralisme démocratique, c'est le contraire de centralisme, donc développer le municipalisme participatif, de développer dans toute la couche de la société donc une participation de base de la société contre le centralisme, développer le municipalisme et de faire participer toutes les couches de la société et contre le centralisme d'État, de créer un système coopératif de distribution équilibre pour instaurer ce système à Rojava. Donc maintenant, le danger qui est présent, c'est l'invasion de la Turquie et des grandes puissances qu'ils se retirent de la région et les États de la région, donc malgré qu'ils ont des conflits historiques entre les États de la région, que ce soit l'Iran, la Turquie, la Syrie, ils ont un seul point en commun, c'est de s'unir contre la libération du Kurdistan. Donc, pardon, je vais développer un peu sur la question ethnique de la Syrie. Vous savez qu'il y a plusieurs ethnies, et ces ethnies, seul moyen de se survivre, c'est de participer à ce système confédéralisme démocratique. Vu que les États de la région donc n'hésitent pas à éliminer physiquement les groupes ethniques ou les groupes religieux. Donc, dans ce système de confédéralisme démocratique, tous les groupes trouvent leur place et de participer au développement de ce système, que ce soit au niveau économique, niveau social et niveau politique. Alors, au niveau de politique, comment ça se développe? Donc, dans toutes les instances de la société, il y a un équilibre par rapport à la composition de la société. Et donc, dans toutes les municipalités, dans les conseils, donc, il y a tous les groupes ethniques et groupes religieux qui sont représentés. On ne regarde pas leur nombre. Et on regarde, en fait, par rapport à leur survie, leur culture et leur croyance. Donc il n'y a pas ce système de majorité pour écraser les minorités. Donc les minorités, ils ont autant de droits que la majorité. Et donc au niveau de la femme, vous savez qu'à Rojava, avec la guerre, La femme, elle s'est émancipée. Donc, le rôle de la femme, que ce soit dans la guerre, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, artistique, on peut dire que la femme kurde, aujourd'hui, elle est devenue le symbole de la lutte féministe au niveau mondial. Donc, le rôle de la femme, pourquoi est aussi important? Parce que dans une société traditionnaliste, dans une société que patriarcat et que la religion a un rôle très important, que la femme n'avait aucune place dans la société. Et donc maintenant, le rôle de la femme, elle est très important pour transformation de la société, pour mettre ce système comme fédéralisme démocratique. Donc le rôle de femme, elle est beaucoup plus important que le rôle de l'homme. Donc quand la femme, elle se bat pour libération de la société entière, mais en même temps, elle se libère donc pour émancipation de elle-même. Et comme souvent on en parle, donc niveau le média, le rôle de la femme kurde, elle est devenue très très important. On peut dire que elle peut devenir en avant-garde de la lutte des femmes et des groupes sociaux au Moyen-Orient. Donc pourquoi les États de la région voient de mauvais œil un tel système, un tel système politique? Parce que les systèmes États-nations comme la Turquie ou interreligieux comme l'Iran, pour eux, c'est un danger imminent que ça peut contaminer leur société et que ça peut réveiller leur société. Par exemple, en Turquie, vous savez que l'idéologie kémaliste est basée sur le nationalisme turc et l'islamisme. Et donc, une idée de confédéralisme démocratique qu'elle a développée en Turquie, donc ça peut être la fin de ce système islamo-fasciste. D'où ces États, au-delà des groupes kurdes, mais il veut étouffer le confédéralisme démocratique, en fait, les systèmes qui se développent. L'Iran, c'est la même chose, parce que de l'Iran, comme il y a des luttes sociales aussi, qu'il y a une forte communauté kurde, l'Iran est appliqué dans la guerre à Rojava pour qu'elle ne se développe pas ce système au-delà de la communauté kurde ou de la Syrie. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, ils ont, de leur point de vue, ils ont l'intérêt d'intervenir tout de suite avant que Rojava devienne un système instauré politiquement et reconnu internationalement. Donc, après, il y a le rôle des grandes puissances au Rojava, que ce soit les Américains, les Russes. Ils avaient l'intérêt de soutenir les Kurdes contre Daesh, mais une fois que la guerre est gagnée contre Daesh, les Américains, les Russes, petit à petit, ils ont lâché. On peut dire que le système confédéralisme démocratique n'est pas soutenu ni par les Américains, ni par les grandes puissances mondiales, vu que c'est contre leur politique ou contre leur idéologie expansionniste et impérialiste. Voilà donc ce que je peux dire sur confédéralisme démocratique. On peut développer beaucoup, mais je préfère qu'on passe aux questions-réponses pour savoir comment ce système va être instauré et comment trouve racine dans une société multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Et en même temps que c'est une société qui est en guerre contre l'Iran, contre la Turquie, contre tous les pays envahisseurs de la région. Merci. Alors, nous, on garde l'espoir. Donc, si le jour qu'on perd l'espoir, on ne se battra plus. Donc, les Kurdes, depuis toujours, On garde l'espoir pour survivre et pour faire survivre ce système. Bien sûr, on a l'espoir. Après, il faut être réaliste. Vu le rapport de force de la région, donc les États avec qui on est en guerre, que ce soit la Turquie, l'Iran ou la Syrie soutenue par la Russie, les chances de survie, elles sont minimes. Mais nous, on garde l'espoir, on a toujours cru à la solidarité entre le peuple. Nous espérons que le peuple syrien ou le peuple turc ou le peuple iranien va se réveiller et puis va comprendre l'intérêt de vivre en paix, de vivre ensemble. Est-ce que ça, en Iran, en ce moment, il y a des mouvements sociaux, comment ça va se tourner? Ça, on ne le sait pas trop. Mais en tout cas, on garde l'espoir. On va se battre jusqu'à notre dernier souffle. C'est un grand mot quand je dis ça, mais les Kurdes n'ont jamais baissé les bras, mais ils ne baisseront jamais les bras. Donc après, pour transformer la société des pays qui nous occupent, c'est vrai, c'est un peu compliqué. En Turquie, on a essayé de créer des partis démocratiques pour réunir les forces démocratiques turques et kurdes, mais on a vu la réaction de l'État, comment tous les députés kurdes, tous les maires et commères kurdes arrêtés, emprisonnés arbitrairement et même éliminés physiquement. Donc c'est vrai, il y a un danger aussi. D'où notre appel à nos amis ou à Solidarité internationale d'être vigilants. Nous, on ne compte pas sur les grandes puissances de nous sauver. Mais ce qu'il va nous sauver, c'est qu'on essaie de s'expliquer à l'opinion publique internationale, de créer une solidarité et que l'opinion publique crée une pression sur les gouvernants, sur les politiques. Maintenant, depuis l'intervention de l'armée turque, donc le plus grand besoin, donc c'est des besoins médicaux. Avant tout, les Kurdes, ils ont besoin d'une sécurité. Donc, le danger le plus grand, c'est l'élimination physique. Vous savez qu'il y a des bombardements sans cesse. Il y a des mercenaires turcs qui commettent des attentats voitures piégées. Donc, le plus grand besoin, c'est de sécuriser la population civile. Et deuxième besoin, donc, c'est médical. Vous savez que les Kurdes, ils ont mis un système agricole en place par le biais des coopératifs, qu'il y a une distribution équitable. Donc je pense que niveau alimentaire, les Kurdes, ils sont assez solidaires et assez organisés pour subvenir à des besoins dans les camps. Mais les Kurdes, en même temps, depuis que la prise de Raqqa, il y a 70 000 prisonniers Daesh. Ce n'est pas tous des militants actifs, mais il y a des militants passifs, comme il y a des enfants, des femmes. Et il faut savoir que ces 70 000 personnes, c'est les Kurdes qui les nourrissent. Ils ont le devoir de nourrir, je vais dire. Mais après, c'est un moyen. Il faut des moyens étatiques pour subvenir à ce genre de besoins. Mais malheureusement, ça manque aussi. Mais il n'y a pas des États solidaire avec la région de Rojava. Donc, la situation, elle est compliquée. Il y a la seule porte ouverte, c'est le Kurdistan d'Irak. Et souvent, la Turquie ou l'Iran fait la pression sur Barzani pour qu'il ferme la frontière. Donc, la situation, elle est dangereuse pour la population civile, ouais. Donc d'où nous appelons à être solidaires, mais sur tout point de vue. Après, comment on peut aider économiquement à Rojava? Je pense que même il y a eu des collectes de médicaments, elles ne sont pas pu arriver à destination, parce que ça doit passer soit par la Syrie, soit l'Irak, soit la Turquie. Donc on ne peut pas demander l'aide à un pays avec qui on est en guerre. C'est une évidence aussi. Alors, on peut dire que le Kurdistan Rojava, donc, Kurdes en Iran, c'est les Kurdes, on peut oublier ces dernières années, parce que c'est la population subit beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'élimination physique. Là, par exemple, dernièrement, par rapport à ces manifestations en Iran, il y a eu des centaines et des centaines de morts dans les villes kurdes. Et vous savez qu'il y a beaucoup de pendaisons, surtout des militants féministes, qui sont pendus presque sans procès. Il y a beaucoup d'assassinats extrajudiciaires. Et bien sûr qu'il y a une lutte. Il y a des partis politiques, il y a des femmes kurdes aussi qu'elles essayent de prendre leur destin en main et de s'émanciper avec la lutte. Mais le fait qu'on parle de Rojava, c'est vrai, on oublie souvent le Kurdistan d'Iran, alors qu'ils subissent autant de pression et élimination physique. Alors, à Rojava, le système de présidente et vice-présidente, en fait le double président, c'est une femme et un homme. À Rojava, c'est obligatoire. Dans toutes les instances de prise de décision, que ce soit une petite association, une petite comité de quartier distribution de la nourriture, jusqu'à la conseil des cantons, qu'elle est composée la présidence d'un homme et une femme. Donc, les mairies, il y a un maire et un commère. Alors, ce système, en Turquie aussi, toutes les maires de HDP, maires kurdes, qui étaient élus, il y avait un maire et un commère. Donc, d'où l'État turc ne voulait pas ce système-là, ne voulait pas de voir qu'un système démocratique s'instaure dans la région kurde. C'est pour ça que tous les maires et des commères qui sont accusés de terrorisme, qui sont arrêtés et remplacés par les administrateurs et voire même éliminés physiquement. Il y a plusieurs personnes qui étaient éliminées. Et en ce moment, il y a 58 maires et commères qui sont emprisonnés. Et le maire élu, bien sûr, un suffrage universel démocratiquement. Alors pourquoi la Turquie fait ça en même temps? La Turquie ne veut pas voir une représentation kurde, c'est-à-dire ne veut pas voir que les Kurdes soient représentés politiquement et reconnus. Alors, confédéralisme démocratique, oui, c'est une utopie, mais est-ce que sans utopie, l'homme aurait pu avancer? Je crois que non. Donc, si on a avancé jusqu'à aujourd'hui, que toujours on était dans la recherche des systèmes, des nouveaux systèmes pour le bien-être de l'homme, je pense que, et même dans l'histoire, tous ceux qui ont créé des nouveaux systèmes, c'est ceux qui étaient victimes de les systèmes présents. Pourquoi les Kurdes ont cherché à développer un autre système? Mais pourquoi ils n'ont pas développé un système État-nation? Parce que les Kurdes, ils ont tellement subi le système monarchique, religieux des États-nation que peut-être ils étaient dans une recherche beaucoup plus utopique de créer un confédéralisme démocratique, peut-être avec qu'ils étaient... Ils ont subi tellement de ces systèmes qu'ils voulaient un système utopique. Oui, moi aussi, je crois que c'est utopique, mais je pense que l'utopie, elle peut être réaliste aussi. Après, le municipalisme participatif, c'est une réalité de terrain. Donc, on a essayé à Rojava, ça se passe très bien. S'il n'y avait pas des interventions des pays occupants, je pense qu'à Rojava, le municipalisme participatif avait vraiment des réelles avancées. Et d'ailleurs, toute la population civile participe. Et le résultat, pendant ces dernières années, c'était très, très encourageant, étant donné en même temps que c'était une population sous la menace des bombes. Après, à Genève, les Kurdes, comment ils voient à Genève, les Kurdes, ils ont la chance de vivre dans un État confédéral déjà, donc ça peut leur donner, niveau confédéralisme, Suisse, peut-être ça peut donner des idées aux Kurdes aussi. Alors, c'est complémentaire. On ne peut pas dissocier parce que le confédéralisme démocratique, c'est un paradigme. Le municipalisme, c'est un échelon de ce système-là, en fait. Parce que pour organiser une société, donc ça part de base. Le municipalisme, c'est la base d'un régime. Donc je pense que c'est le fondement de la démocratie, le municipalisme. Parce qu'un municipalisme participatif, c'est la base de démocratie. En fait, c'est par là que la démocratie commence. Et c'est la fondation de la démocratie, à mon avis. Après, il ne faut pas oublier de la réalité des sociétés, que ce soit dans les pays développés comme l'Europe, et dans une société qui est semi-féodale au Moyen-Orient, le contexte n'est pas le même. À Rojava, on sort d'une société semi-féodale, on passe un système municipalisme participatif. Alors que juste avant la guerre, c'est un chef de village, que ce soit dans le tribu arabe ou kurde ou d'autres, c'est un chef de village qui commandait. Alors que maintenant, c'est la population elle-même qu'elle participe, qu'elle développe leur système. Donc je pense que le côté positif, elle est plutôt là. En fait, le confédéralisme démocratique, c'est diminuer le centralisme étatique, c'est-à-dire de développer le région, elle se développe, les cantons se développent, les villages se développent, c'est-à-dire c'est anti-centralisme. Alors que le régime communiste, comme tu dis, ou socialiste qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'était très très centralisé, c'est-à-dire en URSS, si tu veux prendre comme référence, tout était centralisé à Moscou. Donc, il n'y avait pas une participation de population. La population n'était pas formée pour comprendre le socialisme. Alors que confédéralisme démocratique, la première pierre angulaire de ce système, c'est de former, c'est de amener la science sociale à population de base. C'est pour ça que Rojava, ils ont créé des académies pour que le peuple, les gens, apprennent la science sociale. C'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le confédéralisme démocratique. C'était sans que le peuple comprenne qu'il n'adhère pas, ça s'appelle la dictature. Donc on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Alors que là, on n'oblige pas. On explique le confédéralisme, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en harmonie avec les différences des autres et qu'il y a une participation. C'est ça qu'on a essayé de mettre en œuvre à Rojava. C'est ça qui est en train de se faire, en fait. Alors, pour votre information, donc, en Amérique latine, il y a plusieurs associations, organisations. Ils ont visité Rojava, ils ont envoyé des militants pour faire des stages, pour essayer de comprendre le système. Donc je pense que après c'est vrai c'est prématuré pour le dire maintenant, mais je pense que ça peut se développer vu le crise sociale qui est dans les pays tiers monde. Je pense que depuis la chute du mur de Berlin, il y a une crise idéologique en fait dans toutes les mouvements sociaux aussi. Et je pense que ce modèle-là, ça peut aspirer à certains mouvements comme Amérique latine. Donc je sais qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de ONG, associations qui sont très, très... ils ont un regard très positif sur le confédéralisme démocratique. Et seulement à Rojava, c'est leur système agricole qui est mis en place. C'est biologique, c'est écologique et c'est un système équitable. C'est-à-dire, à Rojava, il n'y a pas un terrien qu'ils commandent pour faire travailler les villageois, acheter à 50 centimes et vendre aux marchands à 5 euros. Comme par exemple en Équateur, le quinoa, on achète dans les coopératives à 0,5 centimes. Les villageois, ils ont presque rien. Mais une fois qu'il est dans les entrepôts avant le chargement, ils le vendent à 7 euros. Et ici en Europe, dans les magasins, c'est à 15 euros. Et qu'on voit donc à Rojava, il n'y a pas ça. Ils ont bloqué ça en fait. C'est le producteur qui le décide. À Rojava, déjà, c'est une bord de Tigre. C'est des terres très très fertiles. Et la culture de coton, c'est de la plus importante du monde. Donc déjà, à Rojava, certaines régions, certains cantons avaient une culture de agricole. Et maintenant, ça se développe, donc une culture biologique, écologique, mais le danger, c'est toujours c'est les occupants. Par exemple, à Afrin, c'est une région très, très riche en agriculture, et donc l'armée turque a intervenu. Maintenant, ils ont confisqué toutes les olives des producteurs, mais ils ont vendu en Turquie, même ils ont livré en Espagne pour transformer en huile. Donc, bien sûr, tout est en essai, mais tout est en danger aussi, parce que en pays sous occupation, donc développer ce que vous souhaitez, c'est très compliqué.
Pour rebondir sur la question aussi, si je peux me permettre, je fais également partie de la campagne Être Rojava Green Egal. Et cette campagne, qui a été lancée il y a 2 ans, en même temps que l'attaque d'Afrin, a donc pour but de soutenir la révolution au nord-est syrien d'un point de vue écologique. Puisque là, les moyens mis en place là-bas, étant donné l'embargo, étant donné le manque de moyens sur place, sont extrêmement limitants. Et donc pour le moment, au niveau de la mise en place d'une réelle alternative écologique de société sur place dans le nord-est syrien, on se heurte à différents facteurs, le manque de moyens techniques, de savoir également, mais aussi une culture qui n'est pas dans le tri des déchets ou dans des perspectives de reforestation, etc. Donc c'est aussi tout un processus au sein de la population qui est de remettre en place des valeurs traditionnelles. Par le passé, les populations n'étaient pas autorisées à avoir un jardin potager. Sous Bachar al-Assad, c'était une région qui avait seulement pour but de produire du grain et de produire des ressources qui étaient ensuite transformées en ville, donc qui étaient extrêmement dépendantes du régime syrien. Donc actuellement, par exemple, la campagne Ouvrir Rojava Green Egal a commencé il y a depuis un an et demi à essayer de bâtir un réseau de pépinières, à essayer de replanter des arbres avec des autres projets de gestion d'eau, etc. Pour le moment, étant donné que la situation est extrêmement tendue, tout est mis en suspens, étant donné que beaucoup de ces projets sont autour de la région de Derry, donc qui est dans la zone des 100 km. Où tout va et vient est extrêmement dangereux. Ce qui est mis en place maintenant de plus en plus, c'est une tentative de, en tout cas avec la campagne Être Rojava Green Egal, de soutenir des projets déjà existants qui sont mis en place grâce à des ONG, mais aussi qui sont mis en place par la Fédération Autonome du Nord-Est Syrien. Notamment, par exemple, ce qu'on fait en ce moment, c'est par exemple, il y a un projet à Hasaka, il y a une station d'eau, une station d'épuration et un réservoir d'eau qui a été attaquée par les forces d'artillerie, l'aviation turque, et qui, dans le prochain mois, va découler sur une situation où potentiellement 500 000 personnes vont manquer d'eau. Donc là, par exemple, c'est un des projets sur lesquels la campagne, en collaboration avec d'autres ONG en Angleterre et en Allemagne, sont en train de lutter. Il y a un grand manque de moyens financiers et un grand manque de connaissances. Donc si tout d'un coup, par exemple vous particulièrement, étiez intéressé à pouvoir prêter main forte à des projets qui sont en train de se mettre en place sur pied, contactez-nous, contactez la campagne.
Alors juste pour compléter, c'est que donc Rojava, elle est alimentée par l'eau de Euphrate, et la Turquie a construit plusieurs barrages pour faire la pression avant sur la Syrie, mais maintenant sur Rojava. Donc il utilise l'eau comme une arme. Donc il y a ce côté-là aussi. Mais tout ça, la Turquie ne respecte pas les accords internationaux des accords sur la distribution des eaux. Alors, Rojava, donc, il y a plusieurs ethnies. Donc, il y a des Kurdes, des Arabes, les deux principaux communautés majoritaires. Après, il y a des Arméniens, il y a des Araméens, il y a des Assyro-Chaldéens. Il y a des Tchétchènes. Donc, la composition de la société à Rojava, c'est pas comme en Suisse. Dans les grandes villes, il y a des quartiers de telle ou telle ethnie, mais il n'y a pas un mélange de population. Donc, il y a des villages arabes, il y a des villages kurdes. Donc, dans certaines grandes villes, il y a des mélanges. Et dans des communes, il y a des comités pour gérer la commune, mais toutes les composants ethniques et religieux, ils participent. C'est-à-dire, même qu'une communauté présente quelques individus, mais ils ont une représentation à la commune pour prendre la décision en tant qu'une ethnie différente, en fait. Donc, parce qu'on est parti dans constat, ce n'est pas un suffrage universel que la majorité élue, mais la majorité a ses droits, mais pas les minorités. Donc, avec ce système confédéral démocratique, les minorités ont autant de droits d'existence que la majorité. Donc, je pense qu'au Moyen-Orient, les minorités elles ont besoin d'un statut politique, social et de protection. Une reconnaissance. Vous savez qu'en 1926, 40% de la population en Syrie, elle n'était pas musulmane, et maintenant elle est diminuée à 4 ou 5%. Donc on voit, avec le temps, il y a une purification ethnique. Regardez, en Turquie, dans l'histoire, on appelait les terres chrétiennes, donc maintenant, on a tout éliminé. Mais ce système, ils l'ont mis en place, avec l'État-nation ou les régimes religieux, c'est-à-dire éliminer ceux qui ne ressemblent pas. Et donc, le confédéralisme démocratique, c'est de protéger, c'est une richesse culturelle, c'est une richesse humanitaire, de préserver et tous les ethnies et toutes les cultures qui survivent sur leur terre. Là, juste, je veux une parenthèse. Il y a une semaine, la Turquie a débloqué 500 milliards lire turcs pour construire des églises dans les pays baltes. Donc, mais des petits, donc parce que c'est une idéologie expansionniste de développer l'islam et éliminer les autres. Donc, je pense que c'est la seule façon de protéger des ethnies ou des groupes minoritaires par rapport à ces états ou ces religions expansionnistes. C'est un système démocratique. Alors, des commissions, donc les ethnies, les groupes ethniques, les groupes religieux sont représentés, et donc dans les instances politiques aussi, elles sont représentées, bien sûr. Mais après, il ne faut pas oublier que on est dans une lutte armée contre les pays occupants. En même temps, il y a une lutte idéologique avec les islamistes, il y a une lutte idéologique avec d'autres. Donc le système, bien sûr, elle est en train de s'instaurer. Parce que, comme vous le savez, même à l'intérieur des Kurdes, mais il y a des conflits, parce qu'il y a certains partis politiques qui ils collaborent avec la Turquie, d'autres avec la Syrie, d'autres avec l'Iran. Donc, bien sûr, c'est compliqué et tout ça. Mais je pense que vous allez sur place, donc tous les échos qu'on a, ceux qui sont contents de ce système Rojava, c'est plutôt les groupes ethniques qu'ils trouvent ils ont trouvé refuge à Rojava. Le premier devoir des Kurdes en diaspora, donc ils ont un rôle à jouer. Le premier rôle, c'est d'être la porte-parole de la communauté de là-bas pour exprimer à leur nom ce qu'ils subissent, de faire entendre leur voix. Deuxième chose, la communauté kurde en diaspora a un rôle à jouer économiquement pour aider. Donc ça, on le fait, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc, si parmi des centaines de milliers de Kurdes en Europe, s'il y a quelques milliers qui l'aident, c'est vrai, ça aussi, ça relève d'une conscience individuelle. Si un individu, s'il n'a pas de conscience, vous pouvez lui expliquer 50 fois, mais il n'a pas de conscience. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une conscience humaine, mais il ne peut pas laisser une population ou même ses frères, ses sœurs dans la douleur. Mais s'il ne le fait pas, c'est que il n'a pas conscience, c'est tout. Donc après, je vais juste rajouter, donc dans un peuple comme le Kurdistan, on ne peut pas avoir une pensée unique. Donc, heureusement qu'il y a différents partis politiques, heureusement qu'il y a des débats politiques, qu'il y a les débats sociétaires, qu'il y a les visions différentes. Mais l'intérêt commun, c'est que tous les Kurdes, ils ont un seul intérêt. C'est d'être solidaires. Tant qu'ils ne sont pas solidaires, mais ils seront le proie facile des États occupants, que ce soit l'Iran ou la Turquie ou l'Irak. Donc, je pense que la survie des Kurdes nécessite, c'est primordial, qu'il y ait une solidarité entre les Kurdes. Donc, si on cherche les Kurdes qui ont une vision État-nation, comme les Kurdes d'Irak, leur rêve, c'est d'avoir un État-nation. Le reste, ils s'en foutent. Donc, même que c'est un État fasciste, mais ils veulent que ce soit un État kurde. Rojava, on a un confédéralisme démocratique. C'est une utopie. Mais cela n'empêche pas une solidarité entre le peuple, entre les Kurdes elles-mêmes, parce que leur survie est liée à cette solidarité. Donc je pense que la solidarité, elle est avant des idéologies ou des utopies. C'est une nécessité qu'elle s'impose à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est une critique constructive. Souvent, les Kurdes ont dit on a besoin de la solidarité, mais pour avoir la solidarité, il faut participer à la vie sociale où on vit. Mais si vous vivez à Genève, si vous ne participez pas dans la vie syndicale, si vous n'allez pas dans la vie associative, si vous ne pouvez pas vous exprimer, ils ne peuvent pas vous comprendre. Donc, il faut aller vers eux pour qu'eux, ils viennent vers vous. Ça, c'est une évidence. Donc, que ce soit en France ou ailleurs, c'est vrai, la communauté kurde, elle est un peu trop entre elles. On demande, on veut que les autres viennent nous apporter la solidarité, mais il faut que chaque individu, où il vit, il faut qu'il accomplisse son rôle individu dans la société dans laquelle il vit. Et de participer à la vie sociale, c'est là qu'on peut développer la solidarité, bien sûr.
Pour reprendre la parole, je pense qu'on va arrêter là avec la conférence. Alors, merci à tous et à toutes. Je voudrais juste faire une autocritique à propos de la conférence, comment ça s'est passé. Il y a une prédominance masculine sur la façon dont ça a été organisé, les intervenants, et ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Excuse pour ça. Et puis, donc là, n'hésitez pas, il y a un petit bar avec des choses à manger et un infokiosque avec plein de choses intéressantes à regarder et à lire.
et on aura une petite caisse pour participer, si vous vouliez bien participer à la... mettre une petite contribution pour la conférence. Voilà, merci beaucoup.
Merci.